Là-haut, troisième partie, chapitre 9. Un hiver exceptionnellement rigoureux suspendit les travaux en cours à Valanche. Dès la fin de novembre, le gel paraissant établi pour longtemps, Tartinelli se décida à renvoyer ses maçons. Les ingénieurs aussi redescendirent, non sans laisser derrière eux de vives inquiétudes, car le bruit courait que la compagnie, en raison des frais énormes que prévoyait leur devis, renoncerait à ses projets. Pour quelques semaines, le village reprit donc sa physionomie habituelle des longs hivers presque oisifs. On travailla dans les ardoisières, on se mit à faire le bois, les troncs des vieux sapins glissèrent le long des pentes où durcit la neige. Mais ces ouvrages n'occupaient que quelques hommes. Beaucoup d'autres, condamnés à l'inaction, se consolaient de ne rien faire en tapant les cartes sur les tables dépeintes, et souvent, avec sa place blanche, ses ruelles presque impraticables, ses toits recouverts d'un demi-mètre de neige, avec son silence que rompait seulement le bruit des bêtes qu'on mène à l'abreuvoir et qui gambadent un moment comme prises de folie, Valanche semblait presque un village mort. Vers le soir seulement, des ombres filaient dans l'obscurité le long des murs. C'étaient les garçons qui s'en allaient veiller chez les filles, pendant que leur père jouait aux cartes et que leur mère ravaudait des bas ou reprisait du linge. Jamais il n'y avait eu tant de gaies soirées, qui se prolongeaient tard, car après les journées oisives, personne n'a la moindre envie de se mettre au lit. Ceux qui veillaient chez Friskin Jordan, surtout, ne rentraient qu'à des heures indues, et l'on s'en donnait à cœur joie dans son chalet. Chaque soir, à peine la jeune fille avait-elle fait son ménage et couché les petits, car elle les soignait en bonne mère, malgré sa tête à l'évent, qu'elle voyait s'entr'ouvrir sa porte. Une tête apparaissait, qui se cachait sous un bras relevé, suivant l'usage des veilleurs. Une voix contrefaite demandait « Est-ce qu'on peut veiller chez toi ce soir ?»« Bien sûr !» L'éclaireur s'en allait porter la réponse à ses compagnons, qui entraient bruyamment à 8 ou 10 en plaisantant « Es-tu bien amoureuse ce soir, Friskin ?»«
Comme les autres jours. »
« Et de qui, surtout ?»«
De tout le monde !»
Elle riait en montrant ses dents, leur donnait des escabeaux, les asseyait partout où l'on peut s'asseoir, et s'installait derrière le poêle, dans le petit rond de lumière du Croigé, avec son tricotage. Ses aiguilles se mettaient à courir, avec un bruit familier, qui s'interrompait de temps en temps, quand elle levait ses yeux fripons et son nez d'oiseau sur ses veilleurs. Ceux-ci fumaient leur pipe en faisant assaut d'esprit. Il y en a qui n'avaient point d'idée, ne savaient que rire des propos des autres, et restaient là, les mains sur les genoux, comme des statues. Mais certains babillaient comme les hirondelles au printemps. Ainsi, Julien Cascaté, le frère cadet de Joseph, qui savait un tas de devinettes très drôles. Il demandait par exemple « Qu'est-ce que c'est qu'une maison blanche qui n'a ni porte ni fenêtre et qui est bourrée jusqu'au faîte du toit ?» On se cassait la tête pour trouver ce que cela pouvait bien être. On ne trouvait pas. Il finissait par expliquer « C'est un œuf !» Ou bien il disait « Tant plus gros, moins il pèse !» Et personne ne devinait qu'il s'agissait d'un trou aux vêtements. Mais le plus amusant de tous, c'était Fritz, le fils de Frédéric Élie Boson. Un petit blond, frisotté, avec un commencement de moustache, qui n'avait pas beaucoup plus de force qu'un poulet, et qui était malin comme un singe. Aucun parmi les jeunes ne savait autant d'histoires, surtout comiques. Aussi ne laissait-on pas beaucoup avancer la soirée sans lui demander « Allons, Fritz, compte-en une !» Il tiraillait sa moustache, cherchait un moment et disait « Est-ce que vous savez celle du hareng ?» Il riait d'avance en répondant « Bien sûr que non !» Eh bien voilà, c'est arrivé à un du Trécou. Il était descendu à la foire de Martigny pour vendre sa vache. Et il y avait un marchand qui vendait des harengs. Alors il en achète un et il demande au marchand « Mais comment est-ce qu'on la cuit, cette bête ?
Le marchand lui explique.
Il n'y a qu'à la montrer au feu.
Il reste à Martigny tout le jour, il vend sa vache, il boit un verre avec les amis et il rentre par le dernier train. En route, le vin lui travaillait l'estomac et il faisait un peu la bise. Il n'y voyait pas très clair, quoi. Et voilà qu'il est pris par la faim. Il se rappelle son hareng et cherche des allumettes pour le montrer au feu. N'en a pas. Il se demande « Comment est-ce que je peux faire pour manger cette bête ?» À force de réfléchir, il trouve un moyen. Il grimpe sur un sapin et regarde de tous les côtés, et il finit par voir une petite lumière de l'autre côté du Rhône. Alors il sort son hareng et le fait voir au feu, et il pense « Le voilà cuit !» Mais en redescendant, il laisse tomber le hareng. Il se dit « Je vais bien le retrouver au pied du sapin !» Il le cherche, il le cherche, il ne le trouve pas. Et voilà qu'en tâtonnant avec ses mains, il finit par tomber sur un crapaud. Il croit que c'est son hareng, et il est tout étonné de le voir se débattre. Et à la fin, il le fourre dans sa bouche en lui disant « T'as vu le fouet ?» le feu. « Passe à faut que t'y passes !» Quand on avait fini de rire, Friskine demandait « Encore une, Fritz, encore une !» Mais le gaillard y voulait mettre le prix. « Chante d'abord quelque chose. »« Après ?»«
Non, avant. »«
Vous savez toutes mes chansons. »«
Ça ne fait rien. »
Alors, sans se faire prier davantage, Friskine se mettait à chanter de sa petite voix de flûte. « Dis-moi, Nanon, dis-moi, Nanon, le nom de ton village. Apprendez-lo, apprendrez-lo, monse, volo, sarai. » À quoi sert-il, à quoi sert-il d'être tant rigoureuse? Et vous, monsieur, d'être tant amoureux? Je m'en irai dans un bois solitaire. Eyo, monsieur, avouez mon pastoret.
À mesure qu'avançait l'hiver, les garçons venaient plus nombreux, car chez les autres filles qui ont du bien et des parents, les veillées finissent bientôt par les fiançailles, après lesquels les veilleurs se retirent pour laisser la place au futur. Friskine, avec qui ça ne tirait pas à conséquence, voyait sa cour s'augmenter des rebuts des autres. Elle accueillait les nouveaux venus avec la même bonne humeur, leur souriait tout comme aux anciens, dénichait pour eux des vieilles chaises ou un bout de coffre, gaie et contente comme si elle avait pris son parti de coiffer Sainte-Catherine. Le malheur, c'est que les autres filles étaient jalouses, même celles qui avaient trouvé des fiancés, en sorte que les commérages allaient leur train. On racontait tout ce qui se passait dans ces veillées, et aussi des choses qui ne s'y passaient pas. Et l'on disait que le Fritz à Bosson se laissait prendre comme un igot au sourire de la jolie blonde. Bien que les parents soient toujours les derniers avertis de ces bruits-là, Frédéric Élie finit par en avoir connaissance. Il se mit dans une grande colère. Ce n'était pas pour que son fils unique épousât une luronne sans le sou qu'il amassait tant d'argent. Or, avec une délurée comme celle-là, aussi futée, il fallait s'attendre à tout, car il n'y a pas moyen de laisser pousser des enfants sans nom dans le village. Et une fois la bêtise faite, les parents n'ont plus qu'à aller parler au curé. Il défendit donc à Fritz de fréquenter Friskine. Le garçon n'osa pas trop désobéir, et les veillées finirent plus tristement qu'elles n'avaient commencé. Pendant que la jeunesse s'amusait ainsi, les menuisiers fignolaient l'intérieur de l'hôtel du Florent. C'était le nom choisi par les Clévoses pour leur chalet transformé, que les peintres devaient achever au premier beau jour. Poursuivi par son idée de devancer Rarogne, Gaspard avait voulu que les travaux marchassent vite et bien. Maintenant que c'était presque fini, il demandait sans cesse de nouveaux enjolivements, malgré les protestations de son père. À chaque commande nouvelle, en effet, le vieux faisait une moue de dédain, car plus les choses étaient belles, plus il les méprisait, et répétait « Il n'y a pas besoin de tant d'affaires !»
À la montagne, on se contente de ce qu'il y a. Même que les étrangers aiment bien mieux que ça soit simple. » Gaspard répondait toujours « Quand on fait tant que de construire un hôtel, il faut que ça soit à la hauteur. » Il donnait ses raisons. Une fois le grand hôtel achevé, qui est-ce qui irait encore dans les baraques comme le chamois? Élise Allais le savait bien. C'est pour cela qu'on la voyait toujours derrière ses contrevents, suivant d'un œil inquiet le bel ouvrage qui se faisait en face. Sûrement qu'elle était jalouse. Et Gaspard s'échauffait à l'idée de la supplanter pour être le premier après Rarogne. « Vous verrez, père, disait-il, dans 2 ans d'ici, la dent grise tiendra encore, parce que la maison est commode. Mais le chamois sera fichu, c'est moi qui vous le dis. » Vieille Suisse essayait de discuter. Tout ça pouvait être vrai. Ça n'empêche pas qu'il ne faut point avoir plus grands yeux que grand ventre. Faire vite et bien, c'est bon pour un rarogne qui a de l'argent pour continuer. Les autres doivent aller lentement et prudemment. Ainsi avaient fait les Riedi au Tricou, et leur petite maison prospérait déjà, parce qu'elle ne leur revenait pas cher. Tandis que si l'on engage un trop gros capital, les fonds viennent à manquer, et alors... Gaspard haussait les épaules. « Bah, faisait-il, des fonds, on en trouve toujours. » Et il allait de l'avant, sans rien vouloir écouter. C'est ainsi que, quand le moment fut là, il voulut pour les soubassements de beaux vernis qui imitaient le bois poli. Il choisit pour les murailles des papiers chers avec des dessins compliqués, et il disait, en les admirant, « Au moins, voilà qui fait plaisir à voir. » Le vieux ne pouvait pas prétendre le contraire. Il n'en regrettait pas moins l'argent que ça coûtait. Seulement, il n'osait presque plus le dire. Jusqu'alors, pourtant, il avait allègrement porté le poids de son âge. Droit, robuste, taillé pour devenir centenaire, despote à la façon d'un patriarche des temps anciens. Et Gaspard filait doux sous ses ordres brefs. Mais, depuis la construction commencée, cela changeait, comme si les rôles fussent intervertis. Henri David ne se ressemblait plus à lui-même. Il devenait doux comme un mouton, hésitait devant une résolution à prendre, revenait sur la parole donnée, se laissait en un mot porter comme un brin de paille par les vents contraires. En sorte que les gens disaient de lui, comme ils disent des ivrognes qui titubent le long du chemin, « Il fait la bise. » À mesure que la maison montait, il s'affaissait davantage, comme si ce souci nouveau eût été trop lourd pour ses épaules, accoutumées à d'autres fardeaux, ou comme s'il eût senti l'approche d'un temps différent, qui n'était pas bon pour lui physiquement aussi. Il se ratatinait comme un vieil arbre dont la sève se retire, dont les branches sèchent l'une après l'autre. Son dos robuste, resté droit après tant de voyages, s'arrondissait de mois en mois, tandis que des rides toujours plus nombreuses labouraient son front autour des touffes épaisses de ses sourcils blancs. Il prenait les allures lassées d'un piéton épuisé par la montée, des airs épeurés, une timidité d'enfant craintif. Son fils, d'ailleurs, aimait à l'éblouir par ses vanteries. Il établissait des calculs superbes, montrait son hôtel bondé de pensionnaires, brassait par avance l'argent à pleine main. Le vieux ne contredisait pas, mais que pensait-il au juste? Voilà ce qu'on ne pouvait savoir, car il ne s'en ouvrait à personne. Quelquefois, en le voyant se chauffer aux rayons encore pâles au soleil d'avril, les gens pensaient « Vieille Suisse a l'air content. Il paraît que ça marche. » En réalité, assis sur son banc, devant cette maison neuve dont il ne pouvait se croire le propriétaire puisqu'elle n'était pas toute payée, il tournait et retournait ses craintes, dressait le bilan de la dette grossissante, rétablissait les chiffres arrangés par Gaspard en des monologues intérieurs où le radotage se mêlait au bon sens.
Oui, c'est vrai, la maison avance, ça se voit bien, pas moyen de dire le contraire.
Mais nous devons déjà 8 000 à Pierre-Élie, 6 000 à Amfuès. Tartinelli n'est pas payé, ni le charpentier, ni le peintre. Qu'est-ce qu'il nous reste à vendre? Le champ au bord de la route? Le coin de bois derrière le village? C'est tout. Et il y aura encore les meubles et un tas d'affaires. Pourtant, ça avance. Oh, pour ça, oui.
Alors, quand les étrangers seront là, on pourra payer. Pour sûr qu'on pourra payer.
C'est ainsi qu'il ressassait les mêmes idées, comme un cheval qui mâche à vide une avoine imaginaire. Tantôt il se tourmentait davantage, tantôt moins. Mais il calculait sans cesse, sans que son visage indéchiffrable trahît l'ombre de ses soucis. Vers le milieu de mai, quand les derniers ouvriers quittèrent la maison, il se sentit soulagé. C'est qu'elle avait vraiment bonne mine, cette maison, avec ses beaux papiers, ses beaux vernis, son balcon en fer, les 4 marches de son perron, les dalles en couleur de son vestibule. Gaspard se frottait les mains comme s'il en eût été l'architecte.
« Voilà ce qu'on a su faire, » disait-il.
« Maintenant, si les étrangers ne sont pas contents, c'est qu'ils sont difficiles. »
Il ajoutait volontiers, en clignant de l'œil d'un air malin.
« Nous sommes prêts 1 année avant Rarogne. Fameux, ça. Le gaillard n'a qu'à bien se tenir. » Dans son contentement, il voulut inviter les notables du village, un soir, dans sa belle salle à manger. On y but sec, autour de la table à rallonge, sous la suspension en cuivre rouge. Mais la gaieté fut lente à venir. Chacun restant sur son camp à soi, ce ne fut qu'après bien des bouteilles que les langues se délièrent. Alors on parla des affaires du village, notamment du chemin de fer, dont personne ne pouvait dire s'il se ferait ou ne se ferait pas. Le départ des ingénieurs les inquiétait tous, car depuis longtemps, ils ne songeaient plus à l'affaire du policier allemand, ni à l'importance stratégique de la vallée de la Tause. Ces rêveries oubliées, il ne leur restait que le grand espoir de la prospérité nouvelle qu'apporterait les locomotives. François David, qui avait accepté l'invitation de son nouveau concurrent, tâchait d'enterrer l'entreprise pour lui mettre la puce à l'oreille.
« Moi, dit-il, ça m'est égal, ma clientèle est faite. Mais c'est pour la prospérité du village, vous comprenez ?»
Le président Combes était assez vigne depuis 1 huitaine. Aussi, quand on fut en train, on profita de son absence pour se gausser un peu de lui, car tout le monde n'était pas satisfait de son administration, qui durait depuis plus de 20 ans. Et bien qu'on le renommât par habitude, on trouvait un malin plaisir à le plaisanter. Joseph Cascaté rappela la blague du bouquet de foin qui pousse sur le clocher. Les seuls brins d'herbe de la vallée qu'on ne puisse pas recueillir. Au temps de sa jeunesse, le président ne pouvait se consoler de les voir perdus. Un jour, donc, ayant décidé de les faire manger quand même à sa vache, il monta sur le toit du clocher, avec une corde et un ouvrier, et ils se mirent à hisser la bête à l'aide d'un nœud coulant pour qu'elle puisse brouter l'herbe. Comme elle tirait la langue, le président dit « Elle voit bien que l'herbe approche, et ça lui fait plaisir. » Mis en verve par cette histoire, Balthazar en raconta une si bonne qu'il devait l'avoir inventée. « Une fois que le conseil attendait Monseigneur l'évêque, dit-il, on ne savait pas au juste à quelle heure il arriverait, et l'on tenait à sonner les cloches pour son arrivée. Alors, on envoie un homme en estafette pour revenir avertir dès qu'il l'apercevrait. Et l'homme le rencontre tout près du village. Alors, l'homme pense qu'il n'aura pas le temps de revenir bien avant l'évêque. Il se demande « Comment est-ce que je pourrais bien faire ?» Et voilà l'idée qui lui vient. Il ôte ses socs et les porte à l'évêque en lui disant « Monseigneur l'évêque, vous voudrez bien me les porter jusqu'au village pour que j'aille plus vite annoncer votre venue ?» Jamais on n'avait autant ri qu'à cette histoire-là, que personne ne connaissait encore. Alors, pour passer le temps, chacun dit la sienne, ou du moins tous ceux qui en savaient une. Et quand ce fut le tour de vieille Suisse, il desserra ses lèvres taciturnes pour raconter ce combat des Tsarfas, dont tous les détails restaient gravés dans sa mémoire. Comme son esprit s'obscurcissait depuis quelque temps, son récit demeura un peu vague. On y vit cependant passer, comme le reflet des réflexions qu'il avait faites au cours de sa longue vie, sur ces événements si lointains, qui se répètent chaque jour en des formes atténuées, puisqu'ils ne furent qu'un moment de la lutte ouverte entre ses éternels ennemis. Ceux qui veulent que le monde reste immobile et ceux qui veulent tout changer. Il passa sa main noueuse sur son front ridé, la ramena lentement le long de son collier tout blanc et commença.
« Je me rappelle tout très bien.
Oui, tout, depuis le fin commencement. Il n'y avait pas alors de vieilles Suisses ni de jeunes Suisses, mais des Noirs et des Rossés. Et c'était à cause d'un procès pour les ardoisières. Toutes les familles étaient divisées. Le village était comme deux camps ennemis. Les jeunes gens ne sortaient plus qu'avec des triques. On se battait tous les jours. Oui, c'est ainsi que ça a commencé. Après, ça a grandi toujours davantage. Ça est descendu dans la plaine, où il y avait d'autres histoires. » Il soulignait ces paroles d'un geste circulaire qu'il terminait en abattant sa main sur la table à la fin de chaque phrase. Les autres l'écoutaient sans broncher, car bien que le récit de cette guerre ait été écrit dans des livres, c'est autre chose quand on l'entend de la bouche même de ceux qui ont tout vu et tout fait. Le vieux, cependant, s'était interrompu. Il répéta « D'autres histoires !» en tirant des poils rêches de son collier de barbe. Évidemment, il cherchait à expliquer ces histoires, les causes de la dernière lutte fratricide qui ensanglanta le Valais, l'antique rancune des Disains du Bas-Valais contre ceux du Haut-Valais, qui voulaient maintenir leurs anciens privilèges malgré la marche des temps. Mais c'était difficile. Les idées flottaient, insaisissables, dans son cerveau. Il ne trouvait pas les mots exacts qu'il faut pour les fixer. Très lentement, en prenant la question d'un autre côté, il poursuivit. Les chefs, eux, ils avaient de bonnes idées. Des idées justes. Les chefs de la jeune Suisse. Ils voulaient la représentation proportionnelle. C'était juste. On ne peut pas dire le contraire. Mais il y avait ceux qui venaient derrière. Des déguenillés, des gueux, des brigands, quoi, des vrais brigands. On leur avait promis de partager les biens des couvents. Alors, en attendant, ils brûlaient les granges, ils cassaient les vitres, ils vidaient les caves, ils tiraient des coups de feu dans les tonneaux quand ils ne pouvaient plus boire. J'ai vu tout ça, moi, à Evionaz, à Verossaz, partout, quoi. Alors, vous comprenez, ça faisait des haines. C'est pourquoi on a envoyé de Valanche une estafette dans le Val d'Illier, quand on a su qu'ils marchaient sur Sion. Ils s'étaient arrêtés au pont de la Morge. Leur chef, M. Barmont, parlementait avec le gouvernement. Le gouvernement, lui, ne disait ni oui ni non. Il fallait se réunir, discuter, voter. Et pendant ce temps, il faisait avertir les hauts Valaisans. Quand les hauts Valaisans seront arrivés avec des fusils et des canons, quoi faire? Ils étaient les plus nombreux. Alors les jeunes Suisses se sont retirés. Et nous, nous étions embusqués sur les Tsarfas. Ils le savaient bien, on l'avait dit à M. Barmont. Mais ils n'avaient pas écouté, il avait dit « Bah, ça n'est rien ». Et quand ils sont arrivés sous les Tsarfas, fallait voir. Qu'est-ce qu'ils auraient pu contre nous? Nous étions là, embusqués derrière les rochers. Ils ne pouvaient ni monter ni tirer. Et nous tirions bien à notre aise, nous. Chacun choisissait son homme. Nous nous disions comme ça « Laisse-moi ce grand brun. Toi, tu prendras celui qui est à cheval. » Et ça y était. Parce que, vous comprenez, il y avait de la haine. Oh, une haine. Ils nous avaient fait trop d'outrages, ces brigands-là. Aussi, point de grâce. Il se sauvait, il se cachait, on tirait quand même. Il y avait un tambour qui était venu se nicher juste au-dessous de nous, dans une espèce de caverne. À la fin de la bataille, il a voulu sortir. On le connaissait bien, ce tambour. C'était un cordonnier de Martigny. Quand il a vu qu'on le couchait en joue, il s'est mis à genoux pour demander grâce. On l'a foutu bas comme les autres. Ils écoutaient, rêveurs, émus de cet écho lointain des passions d'autrefois. Ce que les hommes peuvent être mauvais quand la haine les pousse, dit Maurice Combes. À présent, dit Joseph Cascaté, on ne verrait plus ça. Les autres approuvèrent avec des gestes pacifiques, mais Nantel me dit « Hé, Joseph, tu ne te rappelles donc pas en 86 ?»«
Eh bien, quoi, en 86 ?»«
Quand on a renommé le conseil. »«
C'est vrai tout de même, » dit Maurice.
Nantel me continua pour bien montrer que ceux d'aujourd'hui ne valent pas mieux que les autres. Les femmes des Ristoux dansaient sur la place, avec des fleurs dans les cheveux, pour embêter celles des libéraux. Et celles-là parlaient de décrocher les fusils et faisaient honte aux hommes de n'être pas plus courageux. Et la Jeanne à Paul-Émile, qui avait failli passer au bout de la liste, avec son pot qu'elle lança dans le tas, pendant que sa mère lui criait « Jette tout, ma fille, jette tout !» Tu vois bien, Joseph, que ça recommence toujours.
« Mais ça n'est pas la même chose, » répondit Joseph. « On n'a tué personne. »
Maurice Combes, le philosophe, conclut
« On se déteste toujours autant, dès que les intérêts sont en jeu. »
Vieille Suisse s'était renfermée dans son silence habituel. On cessa de parler politique, la gaieté reprit, on se mit à rire, on chanta. Enfin, il était près de minuit quand on se dispersa, en donnant de fortes poignées de main à Gaspard et à son père, qui avaient bien choisi leur vin. Presque tous faisaient la bise et s'en allaient en tâtonnant à travers la nuit. Alexis Poncher, Boson et Prélas Georges-Étienne, qui avaient gardé leur sang-froid, s'attardèrent un moment à causer à voix basse au bout de la place.
« Eh bien, dit Boson, voilà leur hôtel fini. « Qu'est-ce qu'ils vont faire à présent ?»
Petit Gris répondit prudemment
« Faudra voir. »
Boson, qui avait d'excellents motifs pour tâcher de deviner l'avenir, insista
« Je voudrais bien savoir s'ils s'en tireront. »
Pekafava, qui regardait la lune, dit lentement en pesant ses paroles
« Ces affaires-là, ces grandes affaires, c'est bon pour des gens comme Rarogne, qui ont de l'argent, qui savent faire. Ça n'est pas pour des paysans comme nous. »
Boson ouvrit les oreilles. « Alors, toi, fit-il, tu crois qu'ils ne s'en tireront pas ?» Prélas se corrigea précipitamment.
« Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que c'est bien difficile pour des gens comme nous de faire ce qu'ils veulent faire. Pour le reste, j'ai mon idée. Et mon idée... »
Il s'arrêta comme au bord d'un fossé, et ce fut en vain que Petit Gris tâcha de lui faire dire son idée. Il la garda pour lui tout seul et l'emporta dans son chalet, où l'on ne sut pas même si elle l'avait empêché de dormir. Au cours de la soirée, Gaspard, content de faire les honneurs de sa belle salle à manger, se croyait au bout de toutes les difficultés. Son orgueil s'épanouissait à mesure qu'on vidait ses bouteilles. Il se jugeait, comme il aimait à faire, à la hauteur. Il était dès maintenant quelque chose de plus qu'un paysan, un propriétaire d'hôtel, presque un monsieur. Que son hôtel fût grevé d'hypothèques à gros intérêts, il n'en était pas moins un bon outil pour faire fortune. Quant au maniement de cet outil, Gaspard avait assez de confiance en lui-même pour croire qu'il s'en tirerait aussi bien que François-David Poncher, ou qu'Élise Allais, ou que Jodoc. Aussi, les invités partis, s'écria-t-il devant leur verre vide, « Vous voyez bien que ça va tout seul !» Il s'adressait à son père, dont les yeux à demi fermés, qui comptaient les bouteilles, se levèrent sur lui avec étonnement.
« Qu'est-ce qui va tout seul ?» demanda vieille Suisse.
Un peu interloqué par cette question précise, Gaspard répondit « Tiens, les affaires, parbleu !»
Vieille Suisse referma les yeux sans comprendre.
« Les affaires, ça ne consiste pas à payer à boire aux gens. Ça consiste à vendre son vin le plus cher possible. » Mais il ne creusa pas cette idée. Il dormait déjà plus qu'à moitié, et il alla se coucher sans réplique. Le lendemain, Gaspard se rendit à Lausanne pour acheter son mobilier. Il en revint l'oreille basse. Une fois les peintres partis et Tartinelli payés, il se croyait au bout de ses dépenses, croyant qu'il n'y avait plus qu'à recevoir les étrangers et à empocher les bénéfices. Mais les meubles coûtaient les yeux de la tête, 3 ou 4 fois plus qu'il n'avait compté. Pour payer les lits, les chaises, les commodes, un salon, un piano. Il tenait d'autant plus au piano qu'Élise allait s'en était procuré un. La vente du dernier lopin de terre et du dernier coin de bois ne suffirait point. Il faudrait emprunter encore. Or, Frédéric Élie et Ham Fuess, le banquier de Martigny, avaient déclaré qu'ils ne prêteraient plus un liard sur l'hôtel, qui coûtait décidément trop cher. Frédéric Élie n'en voulut pas démordre. Ham Fuess se montra plus accommodant. Il consentit à avancer une petite somme sur les meubles, mais comme les meubles ne valent plus rien dès qu'ils sont sortis de la boutique, il exigea du 7% en jurant que ce qu'il en faisait n'était que pure complaisance et qu'il faudrait payer les intérêts à la date convenue, sans quoi... Ce « sans quoi » fit frissonner Gaspard, qui conduisait ses dernières négociations sans prendre avis de son père. Sans quoi, cela signifiait, clair comme le jour, la vente par autorité de justice de sa belle maison neuve, que le premier venu pourrait acquérir à vil prix. Même, il flairait que les gens au village prévoyaient de ce dénouement, que Frédéric Élie y pensait sans doute en lui refusant un nouveau prêt, que peut-être ils discutaient entre eux quel serait l'heureux acquéreur qui s'enrichirait d'année en année avec l'hôtel du Florent, pendant que lui, le créateur, écrasé par les premiers frais, traînerait une vie de misère. Ces idées lui donnaient une sueur froide. Aussi se dépêchait-il de les secouer, en se disant qu'une bonne saison suffirait pour tout arranger. Vers la Saint-Jean, son personnel monta. Un chef, très gras, grognon, important, qui sortait d'un hôtel de Nice. Un portier, une fille de cuisine et 2 filles de chambre, dont l'une, appelée Rosine, était jolie à croquer avec son bonnet blanc et ses robes claires. Gaspard, qui avait été la chercher à la gare de Serviez, plaisanta avec elle tout le long du chemin, en portant sa valise. Et dès l'arrivée, il reconnut que c'était une fille de tête, car elle s'aperçut tout de suite d'un énorme oubli de son patron. En achetant son mobilier, l'étourdie avait oublié la vaisselle et le linge de table. Rosine demanda « Et les nappes, monsieur Gaspard? Et les serviettes? Les plats? Les assiettes? Les cuvettes ?» Éclairé comme par un coup de foudre, Gaspard ne put que s'écrier « Nom de nom de nom, je n'y ai pas pensé. » Elle rit comme une folle en montrant ses jolies dents, et elle dit « Il faut vite aller à la ville, monsieur Gaspard, vite, vite, pour acheter tout ça. Nous ferons la liste, si vous voulez, pour que vous n'oubliez rien cette fois. » Elle ne se doutait pas que le malheureux ne savait plus où prendre l'argent, lui qui déjà escomptait l'avenir pour payer son personnel. Jamais il ne lui aurait avoué son embarras. Aussi prit-il dans sa poche la liste d'objets qu'elle lui remit, le soir même, comme s'il eût su comment se les procurer. Le lendemain, Rosine lui répétant de se hâter, il partait pour la plaine et commandait la marchandise, qu'il se fit adresser contre remboursement à la gare de Serviez, en sorte que les nappes, les serviettes, les cuvettes, les plats, les assiettes attendirent dans leur caisse qu'il pût aller les retirer. Chaque jour, Rosine demandait « Eh bien, cette vaisselle, monsieur Gaspard ?»«
Elle n'est pas arrivée, » répondit-il. « Qu'est-ce que les marchands peuvent bien faire ?»
Et malgré son souci, il se mettait à plaisanter, car il ne pouvait plus causer avec la jolie fille sans avoir envie de rire un peu. Pourtant, son inquiétude augmentait de jour en jour. L'histoire des caisses se répandait dans le village, et il ne trouvait point d'argent. Amphuès l'avait traité d'étourneau en le regardant par-dessus ses lunettes. Frédéric Élie restait inexorable. Le dernier délai approchait pour retirer les caisses, qui, sans cela, reprendraient la route de Lausanne. Gaspard ne savait vraiment plus à quel saint se vouer. Quand un après-midi, vers 5 heures, il vit arriver Rarogne. Le grand homme leva le nez vers les plafonds, tâta les murailles, examina les papiers et les meubles, et finit par ouvrir les armoires vides, sans plus se gêner que s'il eût été chez lui. Puis il s'assit sans façon et dit « Tout ça, c'est très bien compris, mon garçon. N'empêche que vous êtes dans l'embarras. » Gaspard voulut nier. L'autre ne lui en laissa pas le temps. « Ne faites pas le malin avec moi, ça ne prendrait pas. J'ai bien vu que vos armoires sont vides. D'ailleurs, on me l'a dit, et je sais que vous avez des caisses en souffrance, là, en bas. Eh bien, la belle affaire. Vous avez été trop vite, voilà tout. Vous avez eu les yeux plus grands que le ventre, comme on dit. Il y a des gens qui vous blâmeraient. Moi, ça ne me déplaît pas. J'aime les hommes qui vont de l'avant. C'est comme ça qu'on fait son chemin. » Vous voyez que vous avez eu tort de vous méfier. »
Debout devant son visiteur, Gaspard le regardait en dessous, en tâchant de deviner où il en voulait venir. Il dit « Je ne me méfie pas de vous, monsieur de Rarogne. » « Si fait, vous vous méfiez, et c'est injuste, car je viens exprès pour vous tirer d'affaire. Il vous faut de l'argent, n'est-ce pas? Combien ?»
Gaspard ne se pressa pas de répondre. Partagé entre sa méfiance naturelle et la joie d'entrevoir son salut, il cherchait la ficelle sans la découvrir. Jamais encore il n'avait entendu parler du « coup de l'étranglement », inconnu à Valanche, et il n'était pas assez fin pour le pressentir. Rarogne répéta « Voyons, combien vous faut-il ?» Le besoin d'espérer l'emporta sur la méfiance. Mais la question était trop directe pour un garçon prudent, malgré sa hardiesse, qui n'avait pas envie de raconter ses affaires en détail au premier venu. Gaspard se contenta donc de dire « Il faudrait payer ce qu'il y a en bas. » « Et il y en a pour ?»« Je ne sais pas le chiffre. Il faut que j'aille voir la lettre de voiture. » Il gagnait ainsi du temps pour réfléchir. « Allez voir !» fit Rarogne avec un geste d'impatience. Il sortit de son pas lourd, resta plusieurs minutes, revint en rapportant une bouteille et 2 verres. « Vous accepterez bien une goutte d'amigne, monsieur de Rarogne. Je vous remercie, avec plaisir. »
Gaspard déboucha lentement la bouteille, souffla sur le goulot pour chasser la poussière du cachet, et dit, comme s'il avait oublié l'objet de leur conversation, « La mine, c'est un bon vin qui réchauffe l'estomac. » Il remplit les verres. Rarogne, qui n'aimait point à perdre son temps, revint à la charge. « Avez-vous retrouvé votre lettre de voiture ?» Malgré sa lenteur, Gaspard s'était décidé. Il répondit d'un ton indifférent « Bien sûr que je l'ai retrouvé. » « Eh bien, il y en a pour 1500 francs. À la vôtre, monsieur de Rarogne. »
« À la vôtre, pas davantage ?»«
Non. N'est-ce pas qu'il est bon ?»
Il avait vraiment l'air de ne penser qu'à son vin.
« Excellent !» dit Rarogne. « Eh bien, je vous les prête, moi, ces 1500 francs. »
Un éclair de joie passa dans l'œil de Gaspard, qu'il éteignit aussitôt pour demander « À quel intérêt ?»« Oh, 5, parbleu! Me prenez-vous pour un usurier? »
Il y eut un silence. Ce fut Raronne qui dut le rompre.
« Est-ce entendu ?»
Gaspard parut hésiter encore.
« Je veux bien, moi, » finit-il par dire.
Aussitôt, Raronne reprit. « Seulement, mon garçon, vous n'irez pas loin avec vos 1500 francs. Vous figurez-vous que les clients vont arriver comme des poulets qu'on appelle? Et puis, s'ils viennent, il faudra les nourrir, ces gens-là. Ils ne vous paieront pas d'avance. Alors, tâchez d'oublier un peu vos finasseries. Pensez que vous causez avec un homme habitué à mener rondement les affaires. Vous n'avez plus le sou, voilà le fin mot de l'histoire. Eh bien, dans un métier comme le nôtre, il faut pouvoir attendre. Vous ne pouvez plus. Comment voulez-vous vous en tirer ? »
Gaspard regardait le vin d'or au fond de son verre. Il finit par dire
« C'est bien sûr que c'est toujours difficile de faire quelque chose, mais ça finira par s'arranger. »
« Eh, sans doute, ça s'arrangera, parce que je suis là. Heureusement pour vous, je vous en réponds. Je me suis dit, voilà un brave garçon qui s'est donné beaucoup de peine. À présent, il a presque fini. Il est comme un vaisseau qui sombre au port. Eh bien, il faut le tirer de ce mauvais pas. Et je vous apporte 6 000 francs, que je vais vous prêter jusqu'au printemps prochain, au 5, contre un simple billet à Orde. Dites après ça qu'il n'y a pas une providence pour ceux qui le méritent. »
Vaincu, conquis, Gaspard ne put que murmurer « Il y a pourtant de braves gens au monde. » Et il écrivit le billet en achevant la bouteille. Il pensait « Étais-je assez nigaud de ne pas dire oui tout de suite ?» Une fois le linge empilé dans les armoires et les services rangés dans le buffet de la salle à manger par Rosine, l'hôtel fut prêt à recevoir n'importe qui. Cette fois, rien n'y manquait plus. Gaspard pouvait dire avec une juste satisfaction « Il n'y en a pas un à Valanges qui soit monté comme le mien. » Malgré cela, les hôtes ne se pressaient point d'arriver. Le chef, qui flânait par le village avec des allures importantes, n'allumait pas même ses fourneaux. Rosine bâillait sur la porte ou faisait la causette avec Gaspard, qui oubliait ses soucis dès qu'il la voyait rire. Et elle riait toujours, tantôt par malice, pour se moquer des autres hôtels, tantôt par coquetterie, pour montrer ses dents. Au commencement, elle demandait « Pourquoi n'avons-nous donc personne, monsieur Gaspard ?» Gaspard répondait « Parce que la saison n'est pas encore commencée. »«
C'est que je m'ennuie, moi, » disait la jolie fille. « J'aime bien travailler, vous savez. »
Mais quand elle vit que personne n'arrivait, elle ne demanda plus rien. Car si la saison tardait pour eux, elle battait déjà son plein pour les autres. De véritables caravanes de voyageurs débarquaient chaque jour devant les deux hôtels, les Anglais allant de préférence à la dent grise, tandis que les vieux clients revenaient au chamois avec une fidélité d'hirondelles qui retrouvent leur nid. En sorte que Gaspard et Rosine, de leur seuil, pouvaient observer la gracieuse Élise Allée qui recevait avec de gentils sourires et d'amicales poignées de main ses anciens habitués. Il y en avait aussi de nouveaux que Gaspard voyait pulluler comme un joyeux essaim autour du vieil hôtel. Mais c'est à peine s'il remarquait dans le nombre les belles demoiselles, qu'en d'autres temps il aurait eu si grand plaisir à lorgner. Cette année-ci, elle ne l'intéressait plus. Est-ce que Rosine n'était pas aussi jolie et aussi fine que les plus fines et les plus jolies d'entre elles? Bonne fille avec cela, riant volontiers, plus sage qu'on aurait cru d'abord, tout aux petits soins avec vieille Suisse, dont l'œil brouillé regardait les choses sans plus les voir. Contente avec cela, comme si c'était pour elle, quand un passant s'arrêtait par aventure au Florent. Alors, il fallait la voir sautiller comme un oiseau autour du voyageur qu'elle servait. Mais Gaspard, au lieu de se réjouir d'avoir quelqu'un, sentait une grande souffrance et jetait sur son client de hasard des regards furieux. D'ailleurs, les grâces de Rosine ne servaient guère.
Les passants continuaient leur route après avoir vidé une bouteille ou bu une tasse de café, et l'hôtel restait désert, tandis que les étrangers affluaient à la dent grise et qu'au Chamois, la petite coterie des anciens habitués était à peu près complète. Parmi ceux-ci, Georges Croissy arrivait plus tôt que d'habitude pour travailler à sa bénédiction des tombes, eut une déception cruelle. Comme il passait devant la fontaine neuve et se lamentait de la disparition du vieux lavoir pittoresque, Nantelme, qui l'accompagnait, ne put s'empêcher de lui dire en soupirant « Ça n'est pas tout, monsieur Croissy. »«
Qu'est-ce qu'il y a encore ? » ?»«
Venez voir. » Il emmena le peintre vers le cimetière dont il entr'ouvrit le portail. Croissy eut un geste de recul. Le champ du repos si paisible, où les familles dorment en groupes fidèles, venait d'être bouleversé comme un terrain qu'on défriche. Des débris de croix jonchaient le sol. La terre sainte était remuée et retournée comme pour des semailles. Arrachés, les arbres mortuaires trouvaient trop vieux. Des cyprès, des ives, des églantiers, qui prêtaient depuis si longtemps l'ombre de leur feuillage ou la grâce de leurs fleurs à des morts inconnus. Arrachés, les touffes de fleurs sauvages, les mauves, les trolls, les camomilles, les coquelicots, qui se balançaient entre les tombes et tapissaient le sol. Dans un coin, contre le mur de l'église, il y avait un tas d'ossements jetés pêle-mêle, tibias sur fémurs et clavicules. Les os des ancêtres oubliés, morts depuis trop d'années, dont les noms s'étaient effacés sur les croix, que leurs petits-neveux ne visitent plus le dimanche, les restes anonymes des pauvres morts aux âmes négligées, privées de prières, qu'on chassait maintenant de leur dernier asile.
« Mais qu'ont-ils donc fait ? » s'écria le peintre.
Nantel m'expliqua. « Ils les ont mis à l'alignement, monsieur Croissy. C'est la loi. Les familles ne seront plus réunies comme autrefois. On sera jetés là l'un après l'autre, au hasard. Tant pis pour ceux qui voudraient rester ensemble. »
Comme ils demeuraient là sans rien dire, ils aperçurent le curé, qui partait de son pas pressé, son bâton de montagne à la main.
Croissy l'arrêta et lui désigna du geste le cimetière saccagé.
« Vous avez supporté cela, monsieur le curé ?»
Le curé s'arrêta et répondit « Il fallait bien, monsieur Croissy, on n'avait plus de place.
On en trouve bien pour construire des hôtels. Ce champ-là, tenez, ce champ de pommes de terre, est-ce qu'on n'aurait pas pu le prendre ?»
Debout, appuyé sur son bâton, le curé, que ses reproches troublaient un peu, répondit « Bien sûr, monsieur Croissy, qu'on aurait pu le prendre. J'y ai pensé. Je l'ai demandé au propriétaire. C'est Frédéric Elie. Il m'a répondu « Trop bien situé, mon champ. On y peut construire. Après le chemin de fer, il vaudra 50 francs la perche. Jamais la commune ne me le paierait ce prix-là. »